à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Gamma Info, un podcast en toute intimité cette semaine, puisque je serai avec Mordren.
Salut Thierry.
Alors comment ça va Mordren, cette semaine de Gamescom très chargée que tu as dû suivre de très près, puisque tu travailles, n'est-ce pas, pour un certain magazine qu'on ne citera pas ici, et tu as quand même dû pas mal suivre ça, donc j'attends beaucoup de choses de toi, n'est-ce pas?
Ouais, bah écoute, c'était une semaine super sympa, une Gamescom qui a tenu ses promesses, l'air de rien. Alors bon, évidemment, ça aurait été encore mieux d'y être, mais il y a quand même pas mal de substance, voilà, sur cette édition 2013.
Il y a matière à discuter. Donc, ouais, vous l'aurez compris, ce podcast sera dédié à la Gamescom et à celle-ci uniquement. Et c'est déjà pas mal vu la plâtrée de jeux que je vois là, ouais, dont on va causer. Donc, on va débuter ce menu par les conférences qu'il y a eu en début de salon. Et on va commencer par celle de Microsoft, qui pour le coup est la moins intéressante. Déjà parce qu'on n'a pas pu y assister nous-mêmes, vu que Microsoft, pour une raison assez obscure, a décidé que, en dehors de la presse spécialisée, personne n'avait le droit de la regarder. Donc ok, hein, super la com déjà. GG Microsoft, vous assurez comme d'habitude. Donc, Microsoft, on commence par eux et on parlera ensuite de Sony. Alors là, je crois que ça va être assez court, Mordren, hein, par contre.
Ouais, c'est assez court. Alors tu disais, bon, pour des raisons obscures, finalement, on a compris les raisons, hein, parce que bon, voilà, les journalistes qui ont assisté nous ont fait des résumés et finalement, il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes dans la conférence Microsoft. C'est aussi, à mon avis, pour se ménager un événement à eux en live sur Internet, plus tard pour annoncer ce qui nous manque, hein, comme information sur l'Xbox One, notamment sa date de sortie, qui sera certainement annoncée en réaction à celle de la PS4, on le verra tout à l'heure. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conférence? Alors nouvel exclu, et grosse exclu quand même, hein, c'est Fable Legends, le nouveau jeu de Lionhead Studios, qui n'est plus chapeauté par Peter Molineux, mais qui continue à garder bien évidemment la licence Fable. Et Fable Legends, en fait, c'est un projet de jeu qui a l'air très très axé sur le multijoueur, puisque la plupart des missions seront jouables en réalité jusqu'à 5 joueurs, donc il y aura une équipe de 4 héros, donc des héros classiques, alors qui seront prédéfinis, c'est-à-dire que vous aurez des classes prédéfinies, seront des personnages qui auront leur propre histoire, c'est-à-dire que on enlève un petit peu le patrimoine de Fable qui vous permettait de créer votre propre héros. Là, finalement, Legends vous donne des héros, voilà, un petit peu à la manière de League of Legends. C'est des héros qui sont comme ça et pas autrement. Mmh. Et le dernier personnage, donc le cinquième, qui sera donc tout seul dans son équipe, ce sera le vilain, qui aura en fait pour but de mettre des bâtons dans les roues aux héros, bien évidemment, et de les empêcher d'entrer dans son donjon et de le tuer, en fait. L'objectif pour lui, c'est il aura une vision en fait de dessus, en mode stratégie, en mode jeu de stratégie. Il pourra poser des pièges, faire popper des monstres à combattre par les héros qui devront s'en défaire pour terrasser le vilain. Voilà, donc finalement un concept assez intéressant, mais qui s'éloigne un petit peu de la tradition de la série Fable.
Ouais, enfin moi c'est ce que j'allais dire, c'est je trouve ça intéressant sur le principe, mais ouais, est-ce qu'il fallait en faire un Fable? Parce que pour moi Fable c'est vraiment un univers où tu crées ton personnage, où l'univers s'adapte à ton personnage. Et moi, ce que j'attendais d'un Fable, plutôt, tu vois, enfin, c'est qu'on nous tienne enfin les promesses qu'on nous avait faites du temps où ça s'appelait, oui, Project Ego, je sais pas si tu te rappelles, où Peter Molineux nous racontait des histoires. Ouais, vous verrez, il y a les arbres qui pousseront en temps réel et tout. Il y a le monde qui changera en permanence. Enfin, ouais, j'attendais, tu vois, quelque chose, voilà, un truc vachement ambitieux. Alors certes, là, je trouve les mécaniques présentées intéressantes. Mais bon, sur le plan de l'ambition, pour le moment, je t'avoue que je suis moyennement convaincu, quoi. Ça a l'air d'être un projet assez modeste, quand même, j'ai l'impression.
En tout cas, les ambitions de Lionhead, c'est d'en faire le jeu de fantasy online le plus beau qui existe. Alors bon, il y a encore du chemin, hein, mais déjà faudra qu'on voit le jeu pour voir comment ça tourne. A priori, le jeu est basé sur l'Unreal Engine 4. Donc là, ça sortira sur Xbox One. Pour le moment, pas de date évidemment, mais ça promet quand même d'être une exclue assez intéressante pour les possesseurs de Xbox One. À savoir quand même que voilà, si vous êtes fan hardcore de Fable, je suis pas sûr que ça soit fait exactement pour vous.
Ouais, c'est plus un spin-off, j'ai l'impression, qu'une véritable suite en tant que telle de Fable 3, quoi.
Moi, je le vois vraiment comme un jeu qui a l'intention de convoiter en fait les amateurs de MOBA et finalement quelque chose qui est fait pour faire patienter avant la probable venue d'un Fable 4, peut-être. Un petit peu comme l'était l'épisode Kinect. Donc voilà, pourquoi pas, faut voir.
Par contre, on en avait discuté avant l'enregistrement de ce podcast. Toi, je crois qu'il y a un truc quand même qui te laisse assez dubitatif. C'est la partie stratégie, entre guillemets, justement, par rapport au contrôle, etc. Est-ce que oui, ça va pas être un peu laborieux au pad, quoi?
Ben voilà, on a quand même des exemples assez concrets de jeux de stratégie qui ont été adaptés au pad Xbox 360 à l'époque. C'était comment il s'appelle, Halo Wars, et il y en avait un autre dont j'ai oublié le nom. C'est Universatoire, ou je suis pas sûr, bon, peu importe. Et ça fonctionnait pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que c'était bien plus lent et c'était un peu compliqué de faire des choses précises et au bon moment. Parce que bon, les jeux de stratégie, quand même, on a beau dire, c'est de la réflexion, oui, mais c'est aussi de l'exécution et c'est de la rapidité. Donc c'est un peu compliqué au pad, à savoir qu'ils ont aussi annoncé la capacité des joueurs vilains à jouer en fait avec une tablette. Et là, pour le coup, je pense que ça pourrait vraiment légitimer l'Xbox Smart Glass en jeu, parce que là, pour le coup, je pense que ça peut être vraiment sympa de manipuler des unités, des pièges grâce à une tablette en fait en jeu. Alors si ça fonctionne, évidemment, ça doit être génial. Moi, je serais plus tenté par cette possibilité-là que par jouer au pad en tant que stratège.
Je suis d'autant plus d'accord avec toi que c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus, en fait.
Oui, moi aussi.
Je veux dire, un jeu où tu joues à 4 en coop pour buter des monstres. Bon, j'ai envie de dire qu'il y a un jeu qui s'appelait Guild Wars 2 qui faisait ça à peu près, tu vois. C'était donc voilà, et ça faisait longtemps qu'il le fait très bien. Donc bon, sauf évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes jeux, quoi. C'est beaucoup plus Fable, c'est vraiment un gameplay beaucoup plus dynamique, on est d'accord, etc. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que les jeux coopératifs, c'est pas vraiment ce qui manque, quoi.
Oui. Alors, surtout en ligne. Ouais.
Ouais. Alors que, par contre, un jeu comme ça où tu joues le méchant, où tu vas devoir poser des pièges, où tu vas mettre des bateaux dans les roues des autres joueurs, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et c'est vraiment ça, je pense, qui va rajouter la plus-value au jeu, c'est-à-dire que est-ce qu'on aura suffisamment de possibilités pour bien faire chier les joueurs et bien poser une résistance qui surprendra les joueurs qui en face, quoi.
Ouais.
Et là où je les attends en tournant, quand même, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un jeu créé par Ubisoft en ce moment qui s'appelle The Mighty Quest for Epic Loot, où en gros, tu joues un joueur qui va piller les donjons des autres joueurs, en fait, et
oui,
tu peux créer ton propre donjon, dans lequel tu accumuleras des richesses, etc., et où tu peux créer des pièges, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir la vidéo qu'a fait Mikael sur sa chaîne, petit copinage, tout ça au passage, où vraiment, c'est un jeu qui a l'air très intéressant. Et sur ce plan-là, je vais les attendre au tournant, parce que moi, sur Mighty Quest of Epic Loot, ça m'a fait pas mal baver, parce qu'il y a vraiment l'air d'avoir des stratégies très poussées à établir, où il y a vraiment des combinaisons de pièges, etc., à établir, qui ont l'air vraiment très bien pensées, où vraiment le gameplay a l'air vachement bien foutu, où en plus tu peux faire playtester ton donjon par les autres joueurs, etc. Voilà, j'attends beaucoup de choses, et si la partie stratégie du méchant est bancale, je pense que le jeu risque de passer un peu à côté, quoi.
C'est sûr.
Une autre exclue, je crois, mais cette fois c'est du côté du studio Mojang, donc les créateurs de Minecraft, qui se lancent sur un nouveau jeu,
Ça s'appelle Cobalt. Alors en fait, c'est un jeu qui sera édité par Mojang et qui est développé par un studio qui s'appelle Oxai Games, je crois. Le jeu s'appelle Cobalt. Il est actuellement en phase de d'alpha sur PC. Le jeu sortira exclusivement sur Xbox 360 et Xbox One pour Microsoft. Enfin, je dis exclusivement, c'est exclusivement sur console, hein, sur 360 et Xbox One, sachant qu'il sortira évidemment sur PC, puisqu'il est déjà sorti, en fait, littéralement sur PC.
Vous, on veut bien être d'ailleurs sympa, mais faut pas déconner non plus.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, en ce moment, vous pouvez déjà acheter l'alpha, comme à l'époque de Minecraft. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le prototype du jeu. Cobalt, en fait, c'est un jeu d'action qui se joue, en fait, à plusieurs. Vous incarnez un espèce de petit robot qui, en gros, l'objectif c'est de se battre les uns contre les autres dans des petites arènes en 2D. C'est assez mignon. Je vous avoue que ça me parle pas plus que ça, mais bon, il faudra que j'essaye le prototype pour voir si ça me parle plus en jeu. C'est quand même une exclue du côté de Mojang qui confirme encore une fois son partenariat avec Microsoft, même si Minecraft sortira sur console PlayStation, on en parlera après. Bon, c'est pas ouf, mais ça reste quand même le prochain jeu des développeurs de Minecraft qui ont annoncé l'annulation de OX10C, et là pour le coup je suis triste. On en avait parlé à l'époque, c'était le prochain jeu de Notch qui développait tout seul. L'idée c'était un shooter spatial. Et bon, finalement il y avait plusieurs sons de cloche à l'époque qui disaient que voilà, Notch avait un peu du mal à développer le jeu et il s'amusait pas en fait dans le jeu, c'est-à-dire que il voulait sortir l'alpha une fois que le jeu était marrant selon lui, et il a toujours pas réussi à le faire, donc il a annulé le projet. Ce qui est plutôt décevant, moi j'attendais beaucoup de ce projet-là, et finalement on aura Cobalt, donc peut-être que ça sera le remplaçant, hein, je ne sais pas, mais voilà, la déception de la semaine pour moi.
Comme tu l'as dit, en fait c'est pas vraiment un jeu en plus de Mojang, quoi, c'est juste ils éditent, quoi, donc...
Exactement.
Je t'avoue que ça me laisse un peu dubitatif, hein. Je vois pas vraiment l'originalité du truc, enfin.
Ouais. Après, je pense que ça peut être très marrant en multijoueur, mais ça va s'arrêter là, quoi.
Enfin, je veux dire, les jeux de combat en arène, c'est pas vraiment ce qui manque, quoi, hein. Donc, surtout que là, c'est pas super techniquement, c'est pas super original non plus.
Moi, j'aurais aimé, qu'il arrête un petit peu de s'apesantir sur X10C et qu'il se mette un peu vraiment à fond dedans et qu'il mette ses équipes dessus, parce que il y avait vraiment du potentiel derrière ce jeu. On en avait parlé tout au long de l'année dernière, et c'est vrai qu'on était très intéressés par le jeu, et je trouve que c'est dommage. Alors bon, même s'il a beau dire oui, l'échec c'est pas grave, c'est un jeu qui avait un concept au moins. Et donc et qui promettait d'être original dans ce qu'il proposait.
Juste un mot sur OX10C au passage. Y a les fans qui étaient derrière le projet, en gros qui ont constitué des équipes de développement pour faire le jeu. Puisque non, je veux pas le faire, bon, on va le faire. Donc on verra ce que ça donne, hein. En tout cas, ça prouve qu'il y avait une attente derrière le projet. J'espère juste que Notch n'a pas annulé le projet parce qu'il avait trop la pression, parce que si c'est à cause de ça, franchement, je veux dire, quand t'as fait un jeu comme Minecraft qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires, tu peux plus sortir aucun jeu à ce moment-là, ça veut dire, hein, parce que...
Je m'étonne.
Voilà.
On va terminer donc avec Microsoft qui essaie en fait de remettre en marche le fil des précommandes pour la Xbox One en annonçant en fait un partenariat avec Electronic Arts. À chaque fois que vous commandez une Xbox One européenne, vous aurez la possibilité en fait de télécharger FIFA 14 gratuitement au lancement de la console. Ce qui est pas rien. Alors certes, je suis pas forcément très fouteux, mais c'est quand même un partenariat qui pèse quand on est en train de se battre contre une PS4 qui annonce 1 million de précommandes. C'est quand même pas rien, parce que bon, le bundle est quand même à 500€, mais un bundle avec Kinect plus un jeu gratuit, ça commence à avoir un petit peu plus de valeur que le bundle de base de la Xbox One. Donc c'est quand même pas mal. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir d'une licence comme FIFA 14.
Ça peut être un argument. Certes, la console est plus chère, mais vous avez un jeu comme ça très attendu qui fournit avec quand même. Donc ça peut peser dans la balance, quoi.
Ça peut peser dans la balance, parce que finalement tu ajoutes le PlayStation Eye à la PS4 et FIFA 14, ça fait 520€ en fait. Donc voilà, c'est pas mal comme partenariat.
Ouais. Bon, après, le truc, c'est que j'ai tendance à penser que les gens n'ont, quoi qu'il arrive, pas autant d'argent à mettre dans une console. Mais en ce moment, voilà.
On est d'accord. Sachant que FIFA 14 sort aussi sur console de génération actuelle, c'est peut-être pas forcément le gros, enfin, la grosse annonce.
Ok, donc on va maintenant passer à Sony. Alors là, Sony, pour le coup, ils ont été beaucoup plus prolixes en annonces, et surtout, d'une part, du côté des dates, du côté des prix, mais aussi du côté des indépendants. C'est confirmé, les indépendants sont à fond derrière Sony. Hein.
Ah, mais à fond. Alors, on va commencer peut-être par ce qui intéresse le moins les gens, la PS3, la PS Vita, et ensuite on terminera par la PS4. Alors PS3, bon, finalement on nous a encore confirmé que ça serait un joli Noël chez Sony, donc avec la présence des exclus que sont Beyond et GT6, qui a une date qui sortira le 6 décembre, plus évidemment tous ces jeux de fin de génération que sont FIFA 14, Assassin's Creed, Call of Duty, etc. Je sais pas, c'est assez perturbant finalement d'avoir attendu GT5 aussi longtemps et d'avoir GT6 qui sort, je sais pas, 3 ans après, je crois. Alors soit c'est un déclic, soit il y a une entourloupe derrière, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire.
Ouais, parce que si c'est juste pour ajouter quelques caisses et quelques modes de jeu, etc., et finalement pas corriger les défauts de la série qu'on lui reproche toujours, à savoir des caisses qui ne se déforment pas quand il y a des dégâts, etc., en tout cas pas suffisamment par rapport à des concurrents comme Forza, etc.,
c'est ça.
Ouais, ça sera un peu du foutage de gueule quand même. Hein.
Et finalement, je me demande si GT6 va pas devenir le GT7 de la PS4 dans quelques temps. D'ailleurs, il y a une rumeur qui court à ce sujet. Mais finalement, ce qui est plutôt gênant, enfin, je sais pas si c'est vraiment gênant, mais quand tu regardes, enfin, moi j'ai regardé GT6 les trailers de gameplay, et quand tu les compares évidemment à Forza 5, qui est son concurrent de la Xbox One, tu dis oui, il y a quand même un fossé en termes de visuel. Alors pas forcément sur les voitures, mais sur tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que il y a des déformations dans Forza 5, il y a des particules un peu partout, et tu sens que c'est quand même un tout petit peu plus plan-plan dans GT6, quoi. Donc est-ce que ça va jouer dans la tête des gens? Je suis pas sûr, puisque à mon avis il y a encore beaucoup de gens qui vont rester sur console de génération actuelle, et finalement quand on a une PS3 et qu'on compte pas forcément investir tout de suite dans la next gen, la PS3 quand même a de bons arguments en ce Noël. Que ce soit en exclu et en blockbuster. Donc finalement, en plus de ça, ils ont annoncé une baisse de prix sur la PS3. C'est le modèle 12 Go qui passe à 199 €. C'est pas négligeable, sachant que j'imagine qu'il y a une frange de la population qui n'a pas de console HD qui pourrait très bien se laisser tenter.
Bah, tu sais, il y a plein de gens qui attendent que la génération actuelle se finisse pour se lancer. Hein, donc, moi, à une époque, c'est ce que je faisais. Hein. La PS2, je l'ai acheté pratiquement en fin de vie. Hein.
Mais c'est pas une mauvaise idée du tout, surtout quand on voit les catalogues offerts actuellement par la génération HD. Enfin, c'est vraiment très important. Alors bien sûr, si vous avez envie d'acheter une console neuve, c'est toujours mieux de l'avoir une fois qu'elle a baissé de prix. Sachant que, bon, attention, hein, c'est quand même le bundle avec le disque dur à 12 Go. Donc voilà, faire attention. On passe à la PlayStation Vita.
Ouais.
PlayStation Vita qui elle aussi baisse de prix, qui arrivera exactement au même prix que la PS3. Elle arrive à 199 €.
Sachant que c'est quand même un prix qui est déjà pratiqué en France.
Exactement. Alors, ce qui m'a surpris par contre, c'est que j'ai fait un petit peu des recherches sur les sites officiels PlayStation, et je ne sais pas si 199 € c'est le prix de base pour la version Wi-Fi de la console, ou si c'est la version la version 3G est également proposée à 199 €. J'ai regardé sur le site officiel américain, et je me suis rendu compte qu'en fait le bundle 3G Wi-Fi était également à $199. Alors là, je suis assez surpris quand même.
c'est déjà plus intéressant quand même.
C'est un gros deal, hein, s'il y a la console en 3G. Alors je sais pas si ça sera quelque chose qui sera valable de tout temps ou si c'est justement pour écouler des stocks, mais ça peut être important hein, comme ristourne, parce que à la base quand même la console 3G était à 300 €. Hein. Alors si vous ajoutez en plus des bundles avec des jeux, on commence à avoir une console qui est plus intéressante, mais on rappelle quand même le gros défaut de la PS Vita, c'est quand même son catalogue de jeux. Et là, donc Sony en fait a mis les bouchées doubles en fait dans la conférence Gamescom en nous montrant que voilà, la PS Vita avait sa place dans l'écosystème PlayStation, en réaffirmant en fait le lien entre la PS4 et la PS Vita, c'est-à-dire que voilà, la PS Vita pourra être utilisée dans quasiment tous les jeux avec la fonction Remote Play, c'est-à-dire que comme la Wii U, vous pouvez jouer en fait dans votre lit à des jeux de votre PS4 sur la PS Vita. Bon, ça fait cher la manette, mais bon, elle a quand même baissé de prix. En plus de ça, ils ont annoncé moult jeux sur la PS Vita qui seront en fait plein de jeux indépendants qui vont en fait faire leur début sur console, sur PS4 et sur PS Vita. Alors, je vais pas vous faire toute la liste, il y en a un sacré paquet. Je retiendrai surtout Rogue Legacy. Je retiendrai Binding of Isaac Rebirth qui va arriver, il y aura Fez, alors Fez qui est déjà sur Xbox 360, mais bon, Fez c'est toujours bien sur console Sony. Hotline Miami 2, qui aura une exclusivité temporaire sur PS Vita. On aura Muramasa Rebirth, donc Muramasa qui est quand même un de ces jeux bien trop souvent oubliés sur Wii, qui pourrait se refaire une belle jeunesse sur PS Vita.
Sur l'écran de la Vita.
Ouais.
Franchement, déjà quand tu vois comment c'est magnifique sur Wii, alors sur l'écran de la Vita avec la résolution, tu vois, qui est beaucoup plus petite, ça va envoyer du bois, hein, franchement.
C'est clair. Alors je vous en ai passé quelques-uns. Après, il y a eu aussi plein d'annonces d'indépendants sur PS4. Et on va passer à la PS4. Parce que finalement, la PS Vita, on n'a pas eu d'annonce d'exclusivité PS Vita. On a eu une annonce de portage de Borderlands 2. Et ce qui est assez alarmant encore avec la PS Vita, c'est même si Sony a découvert Steam finalement, hein, et les indépendants, pour le début, leur début sur les consoles, finalement, il n'y a aucun éditeur tiers occidental qui a annoncé quoi que ce soit sur PS Vita.
Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose sur 3DS, hein.
On est d'accord. Sauf que là, j'ai l'impression que le signal qu'envoie Sony en fait aux éditeurs, c'est pas grave finalement que vous développiez pas sur PS Vita, puisque quand vous développez sur PS4, vous allez développer pour PS Vita, puisque la PS Vita en fait c'est un remote play de la PS4. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on est en train de leur dire c'est pas grave, faites juste des jeux sur PS4, ça compte aussi sur PS Vita. Et moi, ça me gêne vraiment parce que finalement, en dehors des Japonais, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bah, c'est les jeux indépendants, c'est très bien. Les jeux indépendants, on les a aussi sur PC. Donc finalement, quelle est la spécificité de la PS Vita en dehors d'être une manette de luxe pour PS4 ?
Ouais, mais on les a pas sur 3DS par exemple. En tout cas,
ça,
pas tous.
C'est sûr.
Le concurrent direct de la PS Vita, ça reste quand même la 3DS et les téléphones. Alors ça, oui. Par contre, c'est vrai que les téléphones, par contre, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, il doit y en avoir quelques-uns dans le lot qui doivent être sortis sur téléphone portable aussi. Donc,
certainement, oui. Donc, bon, c'est rassurant pour la PS Vita, c'est-à-dire que vous aurez plein de jeux auxquels vous pourrez jouer. Par contre, il y aura jamais de sortie blockbuster sur PS Vita. Enfin, c'est-à-dire, il y aura jamais de blockbuster fait exactement pour la PS Vita. Et donc ça, c'est quand même un petit peu dommage.
À part les jeux Sony, quoi.
À part les jeux Sony, évidemment. Ouais. Mais même Ubisoft, qui habituellement a un Assassin's Creed qui sort sur console portable, il a cette année, il y a pas de.
En même temps, j'ai envie de dire, bon, il y a eu un épisode réussi peut-être, mais en général, les Assassin's Creed sur portable, voilà.
C'est vrai. Donc bon, c'est voilà, on sent quand même que la PS Vita a un lien réaffirmé avec la PS4. C'est bien parce qu'on sent que la console est plus oubliée. Ça serait encore mieux qu'il y ait des développements exclusifs à la console portable. J'espère que ça viendra l'année prochaine.
Bah, si tu veux, moi, je pense que le gros problème qu'a la PS Vita, c'est qu'elle n'a pas autant de support des éditeurs japonais que peut l'avoir la 3DS, par exemple.
Oui.
Et en plus, elle a un autre problème, c'est que Sony n'a clairement pas la force de frappe de Nintendo. Nintendo est capable lui tout seul d'alimenter sa 3DS, alors que Sony, j'ai pas l'impression. Hein. Donc c'est vraiment ça le gros souci en fait.
Bah, les consoles portables de Sony ont toujours été la dernière roue du carrosse comparé à leur console de salon, ça paraît évident. Et c'est encore une fois confirmé par la politique montrée à la Gamescom. Bon, on va passer à la PS4.
Oui, tout à fait.
Alors PS4, bon, on commence déjà avec la date de sortie, ça a conclu la conférence de la Gamescom de Sony, ça sera le 15 novembre aux États-Unis et enfin aux États-Unis, en Amérique du Nord, et le 29 novembre dans toute l'Europe. Dans 32 pays d'Europe pour être précis.
Ça a été confirmé, hein, c'est vraiment 32 pays, oui. Net, précis, on va pas venir nous dire plus tard. Ah non, mais en fait, finalement, on va en réduire.
Non, non. Et ça a même été l'objet d'un troll, en fait, de Shuhei Yoshida, qui, en fait, sur Twitter disait « Oh, dis donc, 32, c'est quand même largement plus que 13.
» Bon, après, c'est bien de faire le malin, mais il faudra que les stocks suivent, hein.
Ah mais c'est ça.
Même s'ils ont affirmé là récemment qu'il y avait très peu de chances que y ait une rupture de stock, va falloir assurer derrière. Hein.
Va falloir largement assurer, c'est clair. Parce qu'il y a quand même déjà 1 million de précommandes qui ont été passées chez Sony pour la PS4.
Ça, j'ai envie de dire, c'était le chiffre de la conférence, quoi.
C'est le chiffre de la conférence. D'ailleurs, il y en a pas eu d'autres.
Hein. D'accord.
Et d'ailleurs, autre troll de Andrew House, qui est un des présidents de Sony Computer Entertainment, qui disait en gros, alors que d'autres ont changé leur histoire, nous avons gardé le cap. Bon,
ouais,
comment
non,
te dire
c'est bon, enfin, faut arrêter, hein.
Voilà, bon, on va arrêter sur les trolls. Bon, finalement, on a une date, ça y est, c'est net, c'est précis, on s'y attendait. Finalement, bon, Microsoft va choisir d'annoncer sa date en réaction à celle de la PlayStation 4. Ce qui est bien pour le lancement aux États-Unis, c'est qu'il se place juste avant le week-end de Thanksgiving, qui va être, Thanksgiving, c'est un petit peu le Noël des Américains, l'air de rien. Et du coup, il y a moyen que la console se vende bien. Nous, on y a le droit juste avant Noël, ce qui est parfait. Faut voir quand la Xbox One sera placée en termes de date. Je m'attends pas à une date. Je m'attends à une date dans les mêmes eaux finalement en Europe,
oui.
Sachant qu'ils ont pas annoncé de date, mais ils ont répété de façon très 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 insistante durant la Gamescom que ça serait novembre. Tout le temps ils l'ont répété, donc voilà, il reste pas beaucoup de choix hein, finalement. mois de novembre, ça serait assez intéressant d'un point de vue économique de voir deux consoles next gen sortir dans la même semaine. T'imagines le truc de fou pour les consommateurs. Donc là pour le coup on va vraiment pouvoir les comparer en magasin. C'est ça qui va être très intéressant.
Tu te rappelles les couilles marketing Microsoft apparaît sur la péniche Xbox
oui.
360 Love You.
C'est ça. Ouais. Au moment du lancement de la PS3, c'était un troll monstrueux. Alors pour la PS4, en termes de jeux, ce qui est assez intéressant dans cette conférence Sony, c'est que encore une fois, ils ont énormément insisté sur les jeux indépendants. Et finalement, ils ont presque occulté en fait leur gros jeu du lancement de la console, ce qui est presque peut-être une erreur, parce que finalement, il y a plein de jeux indépendants qui ont été annoncés mais qui sortiront en 2014. Grosse annonce entre guillemets, c'est l'arrivée de Minecraft sur console PlayStation, qui arrivera au lancement de la PS4. Donc là, pour le coup, c'est finalement pas si mal parce que à l'époque, on pensait que Minecraft serait exclusif à la Xbox One. Donc finalement, les futurs possesseurs de consoles next-gen n'auront pas à rougir de leur choix pour la PS4 ou la Xbox One. Voilà, Minecraft sera sur les deux. C'est pas forcément la news de l'année, mais bon, ça reste important. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu PlayStation 4, jeu indé? On a, bon, je l'ai déjà dit, mais on a Fez. On aura Guns of Icarus Online qui arrivera en 2014, en premier sur PS4 et certainement un autre jour sur Xbox One. Encore une fois, Hotline Miami 2. Donc finalement, en fait, ce qu'on a au niveau des jeux indépendants, c'est surtout du cross-platform sur les consoles PlayStation avec la PS Vita. Donc,
par contre, je crois qu'il y a un jeu qui t'a marqué, toi.
Ouais, moi c'est une exclue PS4 qui m'a vraiment marqué, c'est Rime. C'est en fait finalement on a vu que une minute de gameplay et ça m'a suffi en fait à m'interpeller. L'idée c'est un jeu d'action aventure où on incarne un jeune garçon qui n'est pas sans rappeler Ico. Et dans un univers au ton très pastel qui rappelle également Zelda Wind Waker. Toute l'aventure a l'air de se dérouler sur une île qui n'est pas si déserte que ça, puisqu'on a l'impression, enfin j'ai l'impression qu'il y a des créatures un peu fantastiques à l'intérieur. Donc voilà, finalement on en a vraiment pas appris plus que ça. C'est un jeu qui devrait sortir en 2014 sur PS4. Même les journalistes n'ont pas eu l'occasion de tâter le jeu, mais c'est un des jeux indépendants qui m'a le plus donné envie d'en voir plus, en tout cas.
C'est fait par qui, ce jeu ?
C'est fait par Tequila Works. Ils ont sorti en 2012 le jeu Deadlight, qui était sorti étonnamment sur Xbox Live Arcade et sur PC. Donc c'était un jeu de survival horror.
Ah oui, on en avait parlé d'ailleurs, Deadlight.
Ça me semble bien, ouais.
C'est un des fameux jeux qui était sur la liste des jeux à faire qu'on fait jamais, tu vois.
C'est ça, ouais. Le jeu que t'achètes parce que c'est pas cher, et puis finalement, voilà.
Certes, direction artistique très intéressante, moi j'attends quand même de voir le jeu après. Hein, parce
ah ouais, on est d'accord.
Clairement, on n'a rien vu du jeu, là. On a rien vu de belles images très très intéressantes du point de vue de la direction artistique, mais à part ça... Mais par contre, ça sort sur Vita aussi, je crois, non ?
Oui, c'est...
Parce que tu as dit PS4 tout à l'heure,
oui,
donc...
Excuse-moi, exclu PS4 et PS Vita, et ça, pour le coup, je vais suivre le projet parce que ça m'a tapé dans l'œil, voilà.
Voilà, donc c'est une conférence... Il y avait ce qu'il fallait, je trouve. Il y avait les dates, il y avait plein de jeux. Alors, par contre, moi, je lui ferais peut-être quand même un petit reproche, c'est que je m'attendais quand même peut-être, je sais pas, une petite nouveauté ou... Ou peut-être reparler d'un certain jeu dont on parle depuis des années, je sais pas si vous voyez, en production chez Sony, fait par le créateur d'Ico, etc. Enfin bref.
Bah ça a vraiment sa place au TGS, pas vraiment à la Gamescom, mais je suis même pas sûr qu'au TGS 2013 on le verra.
Non mais je plaisante, hein, c'est un running gag.
Voilà.
Plus personne n'attend le jeu en fait, hein, soyons
réalistes. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, si j'avais un reproche à lui faire, c'est justement d'avoir occulté le line-up du lancement en termes de blockbuster, en fait. Parce que certes, on a eu Assassin's Creed 4 et Watch Dogs, qui sont des jeux Ubisoft.
Je crois qu'on a eu un bref aperçu de Killzone aussi, il me semble.
Bref aperçu de Killzone qui était au tout début, en fait, de la conférence. D'ailleurs, on a vu le dashboard de la PS4, qui moi, personnellement, m'a impressionné. Pas forcément en termes de visuel, finalement, en termes de visuel, ça ressemble finalement au dashboard de la Xbox 360 en ce moment. Mais ce qui m'a impressionné, en fait, c'est on voit en fait Shuhei Yoshida regarder en fait sa liste d'amis, et puis il regarde en fait un de ses potes chez Sony, et il voit qu'il est en fait en jeu dans Killzone Shadowfall, et il se dit, bah tiens, si je regardais sa partie, alors il peut littéralement regarder la partie du mec, et après, si ça l'intéresse, il peut même rejoindre la partie. Et ça s'est fait en 5 secondes. Alors ça, si c'est... Bon, ça peut très bien être du bullshit, hein, d'accord. Mais si c'est vraiment comme ça que ça se passe sur PlayStation 4, c'est assez impressionnant, franchement.
Par contre, pas assez de jeux, vraiment... La grosse vidéo, tu vois, qui fait bien plaisir... te mets une bonne baffe, mais bon. Là où je serais pas d'accord avec les critiques de certains sur Internet, c'est que bon, c'est pas le 3, quoi.
Bien sûr.
Voilà, c'est pas un salon où t'as des surprises. Je pense que peut-être qu'on aura des choses au TGS. Et encore, j'ai un doute.
Bah, pour le marché japonais, oui, mais pour le marché mondial, ça m'étonnerait.
Bah, du côté de Square Enix, par exemple, tu vois, Final Fantasy, enfin, je sais pas, hein, tu vois, peut y avoir des choses, mais bon. Allez, on va passer à la suite, hein. Donc, on va parler maintenant de 2-3 jeux, comme ça, hein, pour se faire plaisir.
Des petits jeux.
Voilà. Bah, écoutez, déjà, au niveau des annonces, on en a eu quand même une assez grosse. C'est l'annonce d'une nouvelle extension pour Diablo 3, une extension appelée Reaper of Souls. C'est donc une extension qui rajoutera un nouvel acte dans le jeu, donc ça sera l'acte 5. Ça rajoute une nouvelle classe aussi, un paladin qui sera, si vous voulez, la classe un peu touche-à-tout, quoi, un peu polyvalente. Ça rajoute aussi quelques niveaux, hein, on passe niveau 70. Là où par contre c'est beaucoup plus intéressant, c'est que ça va corriger certains défauts que moi je n'avais pas repérés durant ma preview, mais qui ont été très décriés par les joueurs. En fait, on lootait beaucoup d'objets qui n'avaient pas de rapport avec notre classe.
Oui.
Et donc ça crée un système assez pervers, vu qu'ils ont un hôtel des ventes, je le rappelle. Évidemment, hein, quand, quitte à faire de l'argent facile, tu vois, hein, on permet aux joueurs de vendre des trucs, on se prend une com au passage, hein, ça remplit les caisses, ça fait toujours plaisir. Même si ça bousille complètement l'équilibre du jeu, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Bah, les joueurs passaient leur temps sur l'hôtel des ventes, quoi, en fait.
Bien sûr.
C'est génial. Donc, en fait, c'est celui qui a le plus d'argent qui peut s'équiper correctement, quoi, en gros.
Simulation de marchand.
Il y avait aussi le fait, tout simplement, que c'était frustrant de looter des objets légendaires qui sont déjà super rares à récolter et qui, en plus, ne correspondaient pas à ta classe de personnage, tu vois. Le truc totalement débile par excellence. Justement, ils ont l'intention de corriger ça. Et donc, maintenant, déjà, les objets légendaires popperont un peu plus souvent. Je dis bien un peu, ça restera quand même les objets les plus rares du jeu, hein, faut pas déconner non plus. Mais surtout, ils correspondront à ta classe, et en fait, ce qui va se passer, c'est que le jeu va analyser tes habitudes de jeu, et il te donnera un objet qui correspond vraiment à ton style de jeu. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Alors, moi, je trouve ça intéressant, mais par contre, j'ai juste un bémol, c'est que, pour moi, le problème n'est toujours pas réglé. Ça reste quand même un système où finalement c'est celui qui paye qui va avoir son objet plus vite, quoi. Enfin, moi, ça me pose un problème, tu vois. Un hôtel des ventes de trucs cosmétiques, je veux bien, tu vois. Mais
oui.
Un truc qui influence sur le gameplay, moi, ça me pose fondamentalement un problème. Ce sera un jeu solo à la limite. Je dis bon, tu vois, on s'en fout. Hein, je veux dire. Les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent se bousiller le jeu, tant pis. Mais là, c'est quand même un jeu qui a une forte composante multijoueur. Donc,
ben, finalement, quand tu joues en coop, c'est pas si gênant que ça. Mais quand t'es en multi PVP, là, pour le coup, ça ruine l'équilibre du jeu. Là où on parle tout le temps d'équilibrage dans StarCraft 2, c'est quand même dommage qu'un éditeur comme Blizzard, un développeur comme Blizzard, qui est capable de passer du temps, de passer tous les jours à équilibrer un jeu comme StarCraft 2, n'est pas la conscience de faire la même chose sur un jeu comme Diablo 3. C'est quand même assez dommage que qu'une conscience économique appelle finalement un changement dans le gameplay d'un jeu. Ça, c'est quand même assez ouf.
Dans les ajouts aussi, ils ont rajouté 2-3 trucs pompés à droite et à gauche chez les concurrents, quoi. Notamment la modification à la fois du visuel et des caracs des objets. Et aussi, les donjons 100% aléatoires. Là, évidemment, on pense à Torchlight, hein.
Ouais.
L'idée, vraiment, c'est de dire qu'une fois que t'as complété le jeu, on va te mettre des donjons vraiment aléatoires pour le coup, où là, tous les boss seront aléatoires, vraiment, tu seras surpris par le jeu, quoi. Donc moi, je trouve ça bien, parce que bon, quitte à farmer, je veux dire, parce que c'est vraiment une composante essentielle de Diablo, j'ai envie de dire, le farming,
c'est
autant
clair.
Que ce soit dans des niveaux aléatoires, où pour le coup, ça se renouvellera un peu quand même.
Ouais, tu t'ennuieras moins, quoi.
Par contre, évidemment, vous en doutez, vous continuerez à devoir vous connecter, hein. Donc, je ne jouerai toujours pas à Diablo 3, malheureusement, hein. Je me disais que peut-être, avec la sortie de la version PS4, qui, pour le coup, marchera, oui, avec la sortie, quoi qu'il sort sur PS4 aussi, je crois, enfin bref,
maintenant. Ouais, c'est possible.
Je me dis qu'avec la sortie de la version console, qui est jouable en solo, avec un mode LAN, tu vois, enfin, on peut jouer entre nous.
Mode cosy.
Soyons fous, peut-être qu'ils allaient patcher tout ça et qu'on allait enfin pouvoir jouer en solo sur PC avec, je sais pas moi, pour éviter la triche, des personnages du mode multi hébergés sur les serveurs de Blizzard. Comme ça, tout le monde est content. Bah non, écoute.
Du coup, ça te donne pas envie d'y jouer sur console?
Non, parce que, enfin, manette.
Oui, voilà, c'est ça.
Manette. Et ouais. Même, si tu veux, j'ai pas envie de donner de l'argent à un développeur qui se fout de ma gueule, quoi. Après, bon, Je sais pas si ceux qui ont tant décrié le jeu pour son équilibrage au niveau du loot des objets, etc., y retourneront. Ils ont quand même l'air de vouloir aller dans la bonne direction. Ils ont l'air d'avoir pris en note les critiques. Aussi, ils ont l'air d'avoir pris en note les critiques sur la direction artistique. Un peu, le jeu sera un peu plus terne. Ça sera moins l'arc-en-ciel, oui, si vous voulez, au niveau des couleurs, etc. Donc bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Et maintenant, on va parler d'un autre jeu. Oui, parce que c'est un vrai jeu. Certains seraient tentés de penser qu'il s'agit d'un outil pour un certain EverQuest Next, mais c'est bien plus que ça. Ça s'appelle EverQuest Next Landmark. Alors, pour vous expliquer un peu l'idée, pour ceux qui auraient hiberné durant la présentation d'EverQuest Next, EverQuest Next, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le prochain épisode de la saga EverQuest, une saga qui, quand même, est assez connue dans le genre du MMO pour avoir vraiment popularisé le genre. Alors, certes, pas autant que WoW, mais c'est vraiment un peu la saga, si tu veux, qui a posé toutes les bases du genre, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, la plupart.
À la fois, ils étaient là avant.
Ouais. Mais c'est vraiment eux qui ont posé plein de mécaniques, si tu veux, qui ont été reprises plus tard, quoi. Et donc, il y a ce prochain épisode qui a été annoncé, et il y a un truc vraiment révolutionnaire, j'ai envie de dire, mais on attendra de le voir en vrai avant d'y croire, n'est-ce pas ? C'est le fait qu'on pourra tout péter au niveau des décors, d'une part, mais aussi que les joueurs vont participer à la conception du jeu, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire en sorte que vous puissiez participer à la conception ? C'est bien simple, ils ont créé un autre jeu qui s'appelle EverQuest Next Landmark, qui est une espèce de Minecraft en mode MMO. Et en fait, ce qui va se passer dans EverQuest Next Landmark, vous allez créer votre avatar. Ça vous permettra au passage d'avoir un aperçu des classes, etc., auxquelles vous pourrez accéder dans EverQuest Next, n'est-ce pas ? Et c'est aussi bien. Et vous pourrez vous balader avec un petit drapeau sur votre serveur et réclamer une terre. Et là, vous faites ce que vous voulez, en fait. La zone est réservée. Vous pouvez inviter vos potes pour qu'ils viennent vous filer un coup de main, si vous voulez. Ils ont fait ça, vous vous imaginez bien, pour que les petits malins viennent pas péter les constructions des autres.
Hein. Oui, normal.
C'est notamment le cas sur Minecraft, hein. Je veux dire, Minecraft, si tu commences à faire de la merde sur un serveur, en général, il y a un ami qui va venir te voir, qui dit « T'es gentil, Coco, mais les pintes de TNT, tu vas les retirer, là. »
Mais généralement, le mal est fait, hein, sur Minecraft, une fois que t'es banni.
Donc, vous allez réserver votre terrain, et ensuite, faites-vous plaisir. Et là, Mandren, je me tourne vers toi, parce que tu as pu voir quelques vidéos qui montraient l'étendue des possibilités de customisation du terrain, non seulement, mais aussi des bâtiments, parce qu'on peut construire des bâtiments, etc. J'ai envie de te demander, toi qui t'es un expert Minecraft, hein, tu as un diplôme, rien que pour ça, preuve en est toutes tes vidéos sur le site, qu'est-ce que tu penses des possibilités de customisation de EverQuest Next Landmark ?
Moi, ce que j'adore, en fait, c'est que je suis peut-être un expert de Minecraft, entre guillemets, mais je suis pas forcément hyper doué en construction. Et finalement, quand je le vois des gens évoluer, en fait, dans ces vidéos de timelapse de construction, en fait, grâce à EverQuest Landmark, je me dis, oh, les possibilités sont presque infinies, on va dire. Ce qui m'a impressionné, c'est la rapidité avec laquelle ils réussissent à s'approprier en fait une partie de terrain et à faire quelque chose de complètement autre par rapport à cette terre là en fait. Donc ça peut être construire un temple, ça peut être construire des ruines dans une jungle, ça peut être construire une montagne. Enfin c'est
parce que tu peux complètement modifier la topographie du terrain en fait.
Exactement. Enfin très honnêtement moi je suis pas, enfin vous me connaissez, je suis pas très joueur de MMO. Par contre, EverQuest Next Landmark, ça me parle énormément parce que justement, voilà, les possibilités ont l'air d'être assez énormes. Et pour le coup, s'il y a en plus un système de crafting, enfin un système d'artisanat et de récolte de ressources, ça pourrait très bien être un jeu que je me prendrais à sa sortie, quoi. Par contre, je sais pas si ça sera lié à un abonnement avec EverQuest Next.
On parle de Sony Online Entertainment, et cette boîte, c'est du free-to-play 100%. Voilà.
D'accord, ok.
C'est vraiment leur modèle économique, et ils vont te faire d'autant moins payer que quelque part, quand même, tu vas un peu bosser pour eux, quoi.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'idée, quand même, derrière, si vous voulez, et c'est là où ça va être assez gratifiant, je pense, pour les joueurs, c'est que ils vont organiser des concours et ils vont sélectionner des terrains, quoi. Il y a certaines de vos constructions qui vont se retrouver dans EverQuest Next.
Ouais.
Parce que le constat de base qu'ils ont fait sur les mémos, c'est que les développeurs ne produisent pas assez de contenu rapidement pour contenter les joueurs. Donc l'idée, c'est vraiment de produire du contenu avec la participation de la communauté.
Ouais.
Et donc, vous allez vraiment contribuer à la construction du monde d'EverQuest Next, sachant que je rappelle aussi qu'il y a une chose très intéressante, c'est que dans EverQuest Next, tu n'as pas qu'un monde à la surface.
Oui.
Tu as aussi un monde souterrain, avec plusieurs strates géologiques, en fait.
Exact.
Donc ça veut dire qu'on pourra sûrement construire des choses dans les strates géologiques inférieures du monde d'EverQuest Next. Vraiment, il y a aussi une variété au niveau du terrain que moi je trouve très intéressante. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans toute cette histoire, c'est que quand même, aussi bien du point de vue de la direction artistique que du point de vue technique, ça envoie du pâté, quoi. C'est super beau. Quand t'es habitué à Minecraft et à ses cubes, certes, ça, c'est un certain charme, tu vois, mais là, on est à un tout autre niveau, quoi.
Oui, alors parce qu'en plus, il faut rappeler que EverQuest Next Landmark se base aussi sur une technologie basée sur le voxel. Mm. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en plus, ils réussissent à... Bon, certes, au départ, vous avez par exemple, une forme de rond, enfin, une forme de sphère qui est basée sur des cubes, mais ensuite, elle va être affinée de telle sorte à ce que ça devienne quelque chose de parfaitement circulaire. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui, bon, évidemment, n'existe pas dans Minecraft, mais qui, amener une telle technologie dans un éditeur de niveau aussi perfectionné que Landmark, propose une variété, j'ai envie de dire infinie, j'ai envie de me lâcher et dire infinie de décors et de possibilités pour les développeurs, mais aussi pour les joueurs, parce que voilà, il y a des gens qui ont un petit peu perdu, enfin Minecraft a un petit peu perdu ce côté construction de l'extrême, parce que voilà, le jeu est un petit peu tourné maintenant vers la survie. Si on a EverQuest Next d'un côté et Landmark de l'autre, ça peut très bien devenir, en plus free to play, ça peut devenir un nouvel espace pour les créateurs. Pour, je sais pas, créer de nouvelles forteresses, de nouvelles représentations de l'univers de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux, de ce que vous voulez. Je pense que ça peut donner, en plus, avec les qualités techniques offertes par Landmark, ça peut donner des trucs absolument magnifiques, quoi.
Ouais, il y a un petit côté Pixar, je trouve, dans la direction artistique. C'est vraiment absolument charmant. Tu parlais des possibilités de customisation. Le truc qui m'a vraiment fasciné, moi, c'est la capacité qu'on a, tu sais, de donner une patine vraiment assez ancienne aux constructions. Si tu veux vraiment faire un temple en ruine, je veux dire, ça sera pas des pierres polies, tu vois, toutes neuves, toutes fraîches. Il y a vraiment la possibilité de donner un aspect vieillissant aux constructions. Et autre chose que j'ai énormément apprécié, c'est vraiment, on parlait de la modélisation du terrain tout à l'heure. Je veux dire, il y a vraiment la possibilité de changer du tout au tout la topographie du terrain. Je pense notamment à une vidéo où, en fait, on commence, il n'y a rien, et on finit, et c'est une espèce de forêt, quoi, si tu veux. Enfin, c'est bluffant, quoi. C'est absolument bluffant. D'autant plus qu'à côté de ça, et je terminerai là-dessus, ils ont prévu des choses intéressantes pour dynamiser la communauté, à savoir que certes, quelque part, vous allez un peu bosser pour eux, mais par exemple, les joueurs qui voudront créer des assets pour le jeu pourront le faire, ils pourront se faire rémunérer, en fait.
Oui.
Si vous voulez, il y aura un espèce de store qui va être mis en place, vous pourrez les implémenter dans le jeu, si des gens les achètent, ben, vous ferez rémunérer. Imaginons, quelqu'un achète vos assets pour faire un asset encore plus gros, tu vois, faire un contenu encore plus conséquent. Si cette personne-là revend derrière son asset, vous toucherez un pourcentage sur la vente qui correspondra au pourcentage de la part à laquelle votre asset correspond à la construction globale du truc. C'est vraiment un système qui a l'air très intéressant. Moi, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir très bien réfléchi le truc. Mine de rien, ça sera le premier MMO où les joueurs vont activement participer à la création de l'univers. Et j'ai hâte de voir ce que va donner l'imaginaire des joueurs. Voilà, voilà. Donc, ensuite, c'est tout pour EverQuest Next, Landmark. On va maintenant passer à Murdered Soul Suspect. Alors, Mordrain, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation? Moi, de ce que j'ai compris, en gros, c'est un espèce de croisement assez spécial entre Elle est Noire, Blackwell, j'ai envie de dire, la série de point and click, pour vraiment pour le côté ambiance sombre, etc. Et un peu surnaturel sur les bords. Et aussi, tout simplement, Ghost Trick, pour il y aura une partie puzzle, notamment, qu'on n'a pas encore vue, finalement, dans les vidéos, mais qui a été annoncée. Donc, c'est vraiment un jeu qui nous a titillé.
Ouais, en fait, c'est un jeu qui a été annoncé et présenté à l'E3, qui était un petit peu passé sous notre radar. Et finalement, en fait, ça a l'air assez intéressant. Le jeu se base, enfin, la prémisse du jeu, c'est vous incarnez en fait un détective qui est exécuté, enfin qui est assassiné au début du jeu, et devient en fait un fantôme. Il est témoin de son propre assassinat. C'est-à-dire que bon, il est déjà à l'état de fantôme, mais il se voit assassiné par son meurtrier, mais il ne voit pas qui est le meurtrier. Donc il va essayer d'enquêter sur son propre meurtre. Et du coup, il va suivre aussi son coéquipier détective à travers en fait son enquête et tenter de communiquer avec lui par certains truchements pour lui donner des indices en fait, parce que l'objectif de ce jeu, c'est un jeu d'enquête, un petit peu à la Elle est Noire comme tu le disais. Donc vous allez regarder les indices qui sont sur la scène de crime, si j'ai bien compris posséder certains des témoins pour comprendre ce qu'ils ont vu.
En fait vous allez fouiller dans leur mémoire.
Et du coup essayer d'extraire en fait la vérité de tous ces indices là. Vous pouvez aussi explorer différentes maisons, enfin vous pouvez même passer à travers les murs pour trouver d'autres pistes pour mettre à jour le suspect. Et moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'ambiance en fait, l'ambiance esthétique du jeu, parce que finalement c'est assez nouveau d'incarner un fantôme, et il y a toute une ambiance qui se met autour. Par exemple, moi, c'est une fois qu'il est rentré dans une maison, par exemple, il voit en fait des écritures un petit peu partout qu'il est le seul à pouvoir voir. Il se rend compte que finalement il y a des choses un petit peu surnaturelles qui se passent autour de lui, et que la vérité n'est pas forcément dans tout ce que les gens disent. Et là pour le coup, je pense que ça peut être assez intéressant. Par contre, voilà, la comparaison avec Elle est Noire me déplaît un peu, parce que Elle est Noire c'était un jeu qui était pas forcément parfait, et même en termes d'enquête. Donc j'espère que Murdered Soul Suspect va pouvoir hausser un petit peu le niveau dans le jeu d'enquête. C'est un jeu qui est prévu en 2014 a priori sur PS3 et 360, on sait pas encore, enfin sur PC aussi, mais on sait pas encore s'il sortira sur console next gen. Donc on verra, en tout cas ça a l'air assez intéressant. Moi personnellement je suis assez intéressé.
Il y a aussi des ennemis en fait dans le jeu.
Oui.
Ce sont des fantômes si vous voulez qui ont tellement décrépi que ils se sont mis en tête que pour redevenir normal fallait bouffer les autres fantômes. Et en fait il y a vraiment une partie entre guillemets infiltration. Alors bon, pour le moment ça a l'air assez simpliste, mais j'attends de voir quand même les mécaniques qu'ils vont mettre en place pour cette partie-là, parce que c'est clairement pas une partie où tu pourras bourriner en fait.
Oui.
Et il faut à chaque fois t'infiltrer derrière eux pour les posséder en fait de l'intérieur et les faire imploser de l'intérieur en fait. Donc peut y avoir toute une série de puzzles qui peuvent se mettre en place par rapport à ça, donc j'attends de voir. L'autre partie que j'attends de voir, c'est vraiment la partie où tu vas essayer de communiquer avec les vivants en fait,
oui.
Qui là pour le coup ressemblera énormément à Ghost Trick, parce que là en fait, je vous explique, vous allez vraiment interagir avec certains éléments du décor, notamment ils utilisaient l'exemple d'allumer un feu d'une gazinière pour attirer l'attention d'une personne vers ce feu-là, etc. Enfin bref. La partie enquête, par contre, j'avoue que pour l'instant, moi je suis dubitatif. Hein.
Pareil.
Alors en gros, à part posséder un mec et lire, ça laisse un peu dubitatif, et même alors si aussi il y a un aspect tu arrives sur une scène de crime, t'as plusieurs adjectifs qui sont affichés en fait, il faut les sélectionner dans l'ordre pour cerner comment la scène s'est déroulée quoi, en fonction de ce que tu as sous les yeux. Genre par exemple, il y a une fenêtre qui est cassée, tu t'es débattu, ensuite il t'a jeté par la fenêtre, enfin voyez, faut refaire le déroulé des événements dans ta tête en fonction de ce que tu vois. Oui, je suis assez dubitatif, qu'on va dire. J'attends de voir ce que ça va donner concrètement sur des choses un peu plus intéressantes. Moi, c'est vraiment la partie interaction qui m'intéresse plus que la partie
Oui.
récolte d'indices, etc., qui m'a pas l'air franchement passionnante, hein, je dois avouer.
On verra bien par la suite, mais peut-être, voilà, un jeu à suivre, en tout cas, enfin, qui a un concept original et qui pourrait être intéressant, même si on a encore des doutes sur certaines choses.
Vous aimez les jeux de combat spatiaux? Vous aimez, vous la jouez Top Gun? Vous aimez les X-Wing? Vous aimez Star Wars? Vous allez aimer Eve Valkyrie. Eve Valkyrie, si vous voulez, c'était un prototype qui avait été présenté durant le F-Fanfest. Le F-Fanfest, c'est une espèce de manifestation organisée par CCP, qui est donc l'éditeur de Eve Online.
Oui.
Eve Online, le MMO que je ne présente plus, j'en ai dit tellement bien dans cette émission que voilà, enfin, c'est le MMO spatial. Et si vous voulez en savoir plus, allez regarder l'émission de Joueurs du Grenier en ce moment sur Looking for Games, sur jeuxvideo.com. Ils ont commencé à en faire une série d'émissions, vous en apprendrez bien plus là-bas. Ils ont décidé finalement de faire de ce prototype un spin-off. Parce que ce prototype, en fait, si vous voulez, c'était une démonstration de l'Oculus Rift, en fait.
Oui.
L'Oculus Rift, qui, je le rappelle, et donc ce sont les lunettes de réalité virtuelle consommées sur le nez, et ça y est, vous bougez la tête, vous voyez ce qui se passe, votre tête bouge en même temps dans le jeu, et on s'y croit, quoi. Et donc, ils ont décidé de faire ça dans un jeu de combat spatial. Je vous laisse imaginer, quand vous faites des loopings, que vous regardez au-dessus, vous voyez votre adversaire qui est nez à nez, juste au-dessus. Enfin, bref, ça peut donner des choses assez épiques. Ils ont décidé d'en faire un vrai jeu. Ça s'appelle donc F-Valkyrie, ce sera un spin-off. Et ma foi, bah écoute, moi, tout de suite, tu me vends ça. Je veux dire, je suis un espèce de gros fanboy des jeux de combat spatiaux. J'ai pris un pied monstrueux sur des jeux genre Independence War, etc. Enfin bref, c'est vraiment le genre de truc que tu me vends ça. Rien que m'imaginer, tu vois, dans un champ d'astéroïdes, à slalomer entre les astéroïdes, à me regarder sur le côté pour voir les tirs laser, enfin, vraiment, je m'imagine dedans. Alors, en plus, pour peu que ils gèrent ça avec un vrai joystick, tu vois, bon vieux joystick à l'ancienne, où tu pourras vraiment te lâcher Top Gun, tu vois, là, ça... Ouh ça fait vraiment rêver, quoi. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Morgane, mais moi, la démonstration technologique, parce qu'il y a quand même eu des vidéos, ça fait envie. Bon, après, évidemment, il y a toujours un souci, c'est que l'Oculus Rift, hein, il coûtera $300. Donc, c'est pas tout le monde qui pourra se le payer. Et à mon sens, l'achat du périphérique ne vaudra le coup que si un grand nombre de jeux prennent en compte le périphérique. Si c'est juste un gadget qui fonctionnera sur 3-4 jeux, c'est pas la peine. Là, en l'occurrence, c'est intéressant parce que ça sera vraiment pensé de base pour le gérer, même si on imagine bien que le jeu fonctionnera sans.
Oui, bah alors j'espère bien. C'est un peu une question que j'avais là. C'est est-ce que ça fonctionnera sans? Parce que ça serait dommage de vendre le jeu que sur une frange très mince du monde du jeu vidéo, même si voilà, Oculus Rift c'est quelque chose qui promet beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà le jeu a l'air assez sublime. Alors bon, j'ai l'impression qu'en ce moment on est à fond sur la simulation de combat spatial. On en a beaucoup qui vont sortir, mais pas tous dans le même genre, j'ai l'impression. Valkyrie, ça a l'air d'être quelque chose d'assez nerveux, en fait, l'air de rien.
D'assez arcade, finalement. Plus,
très arcade.
Plus arcade que simulation, en fait.
J'ai oublié le jeu dont on a parlé la semaine dernière. Ah oui, c'est X-Rebirth. Qui, là, pour le coup, prend beaucoup plus son temps.
C'est plus un Skyrim dans l'espace.
Exactement. Et là, pour le coup, c'est bien parce qu'on aura toute la palette, de ce que peut offrir le combat spatial, sa simulation et son arcade. Alors, je parle même pas de Star Citizen. Et en plus, avec les capacités actuelles de nos machines, voilà, ça peut donner quelque chose de très très grand. Moi, j'aimerais bien savoir si, je doute, mais est-ce que c'est, tu crois que F-Valkyrie va être lié d'une quelconque manière à DOS 514 ou Event 9?
Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que si DOS 514 est lié à Event 9, c'est parce qu'il gère une partie des combats qui est totalement différente du champ de prédilection d'Event 9. Eve Online, c'est quand même un jeu où t'es déjà dans ton vaisseau spatial, où t'as déjà des corporations qui se foutent sur la gueule dans l'espace, et donc, à mon avis, c'est pas possible. Ou alors, je sais pas, dans des instances vraiment très très particulières, je sais pas, hein, imaginons les combats en orbite, je vois pas comment ils pourraient implémenter ça en plus d'Eve Online, alors que justement, DOS 514, ça faisait sens, tu vois.
C'est vrai.
C'est du FPS, ça n'a strictement rien à voir avec EVE Online, ça se déroule sur des planètes, EVE Online qui est dans l'espace, donc on peut dire que les deux, il y a moyen de faire un parallèle, tu vois.
Oui.
Alors que là, à mon avis, vraiment l'idée, ce sera plus de développer le background d'EVE Online, je pense, plutôt que de faire un truc qui va interagir avec EVE Online, ça j'y crois pas une seconde, personnellement. Surtout que ça compliquerait, à mon avis, grandement les choses. Ils ont déjà tellement de projets sur le feu, si tu veux. Parce que mine de rien, ils doivent bosser en même temps sur World of Darkness Online. Mine de rien, faut continuer à bosser sur EVE Online en même temps.
Oui.
Faut continuer à bosser sur DOS 514. C'est pas non plus une énorme boîte, hein, CCP. Je pense pas qu'ils vont chercher un truc très compliqué. Hein. Ça sera un truc simple, je pense, un truc arcade. On va prendre son pied dessus pour le pilotage. Mais je pense qu'il faudra pas chercher plus loin.
D'accord. Ok. Bah, écoute, en tout cas, ça donne vraiment envie.
Voilà, donc maintenant on va passer à Electronic Arts, deux jeux cette semaine pour Electronic Arts, donc Titanfall. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment appris beaucoup de choses sur Titanfall? Je te laisserai répondre, Morvan. Et surtout, Command and Conquer.
Ouais, alors bon, il y avait plus de jeux dans la conférence d'Electronic Arts, mais c'est les deux qui m'ont, dont je me souviens. Bon, il y avait les Sims 4, mais bon, les Sims 4, quoi.
Par contre, on a appris une chose intéressante sur les Sims 4, c'est que le jeu sera offline.
Alors ça, c'est une grande nouvelle, franchement. Heureusement, d'ailleurs. Alors, Titanfall. On n'a pas appris grand-chose, par contre, on a une démonstration de gameplay.
Oh
mon Dieu, qu'est-ce que ça donne envie. Voilà, c'était une mission solo. Et on s'est rendu compte, en fait, de la rapidité du gameplay, en fait, dans le jeu. Le joueur en fait est équipé d'un jetpack et peut littéralement en fait monter en haut de gratte-ciel, enfin pas de gratte-ciel mais d'immeuble. C'est juste dingue parce que moi j'ai vu ça déjà, je me suis dit c'est fluide comme c'est pas possible et c'est beau et je me suis imaginé ça en fait dans un mode multijoueur. Et là je me suis dit alors soit un ça va être le gros bordel soit ça va être quelque chose d'extrêmement impressionnant et potentiellement intéressant pour la scène sport électronique parce qu'on peut on pourra faire des moves assez incroyables avec avec ce genre de technologie là donc voilà c'était plus c'est un des coups de cœur de certains journalistes de la scène française et c'est pas étonnant parce que voilà ça a du punch c'est joli et puis t'as en plus de ça le côté méca qu'on a vu un petit peu plus en fait dans la démo et on s'est rendu compte que tu pouvais entrer dans un méca mais en sortir quand tu veux et le méca quand t'en sors tant qu'il est pas détruit en fait il te suit avec une intelligence artificielle qui le contrôle. Mais ça c'est un truc de taré. Et donc tu peux ensuite retourner dedans quand tu veux. Donc par exemple j'ai dans la démo en fait donc tu sors de ton machin, tu vas dans un immeuble par exemple et le méca te suit et quand il voit un méca ennemi, bah tu les vois tous les deux se fight. c'est un truc de taré. Franchement, c'est honnêtement, j'étais pas forcément au top de mon enthousiasme dans sur Titanfall à l'époque de l'E3, mais quand j'ai vu cette démo là, je me suis dit ah ouais, il y a quand même du potentiel derrière ce jeu.
Ouais, donc, pour le coup, t'es pas du tout avec d'accord avec Mikael quand il disait que finalement, enfin, en l'écoutant, enfin, c'était vraiment limite un clone des Modern Warfare et Battlefield, quoi.
Je pense que ça apporte beaucoup en termes de gameplay, parce que certes, ça part de ce principe-là d'un shooter très rapide, mais là, c'est un shooter ultra rapide. C'est-à-dire que en apportant le jetpack, en apportant le mecha, parce que finalement, le mecha, c'est pas un truc très forcément très rapide, mais dans la campagne solo, je pense que déjà ça va apporter quelque chose de plus et dans le mode multijoueur c'est des choses. Bah, je sais pas si les mechas seront présents dans le mode multi, mais avoir ne serait-ce que le jetpack dans le mode multi, ça va apporter des parties qui vont avoir, enfin qui vont être très très différentes de ce qu'on peut voir dans des Call of Duty ou dans des Battlefield. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est la direction que prend la prise en main du jeu, en fait. Plus que la direction artistique, parce que finalement, on est dans quelque chose d'assez classique en termes de visuel, j'ai envie de dire. Même si c'est un peu science-fiction, ça reste... Ben, on sent quand même que c'est des anciens d'Infinity Ward, quoi. Donc voilà, moi, ça me parle un petit peu plus maintenant, Titanfall.
Alors, moi, je serais pas tout à fait d'accord avec toi sur la rapidité. Enfin, disons, oui, certes, c'est rapide par rapport au FPS d'aujourd'hui, mais c'est pas non plus Unreal Tournament, quoi. Enfin, c'est pas, pas Quake 3, quoi.
C'est... Non, c'est sûr.
Non, parce que quand on dit rapide, voilà, je vais préciser, c'est quand même pas Quake 3, hein. Faut toute raison garder. Voilà, c'est certes plus rapide que les FPS d'aujourd'hui, mais c'est pas ce niveau de rapidité-là, quoi. Après, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment le gameplay au jetpack. Bon, vous savez, j'adore les jetpacks, moi. Et c'est vrai que ça change totalement la physionomie du jeu, je trouve. Ne serait-ce que par rapport aux phases en méca, si tu veux. Ce que j'ai adoré dans les vidéos, c'est vraiment ces moments où, certes, t'as beau être dans un gros méca, tu vois, t'as l'impression de voir toutes ces fourmis, là, qui zigotent dans tous les sens, là, tu fais, mais, oh, arrête de bouger, là, et oh, t'es gentil, hein, j'essaie de te tuer, là, tu peux pas rester tranquille deux secondes, là, que je fasse mon travail, s'il te plaît, hein. Ils ont l'air d'avoir très bien trouvé, la méthode, si tu veux, pour contrebalancer la puissance des mechas, parce que c'est un truc qui pouvait faire peur, c'est que finalement tu te retrouves avec des mechas ultra puissants et que tu te fasses shooter en deux secondes comme ça là, en claquant des doigts par des mecs qui sont dans leur mecha, alors que là finalement en fait c'est tellement dynamique, si tu veux, que je pense qu'il y a des mecs qui vont s'amuser avec les mechas, mais ça va être une boucherie, quoi.
Certainement. Et pour revenir en fait sur le jetpack et le multijoueur, souvent dans les jeux comme Call of Duty, on se plaint des campeurs. Avec un jetpack, tu peux imaginer défoncer un campeur retranché en haut d'un immeuble avec son fusil de sniper très très rapidement. Et du coup, ça peut voilà apporter un dynamisme renouvelé dans le mode multijoueur de Titanfall. Alors si en plus on peut s'amuser avec le gameplay ambivalent d'un mecha et être à pied tranquillement, ça peut être vraiment très impressionnant.
Alors après, par contre, moi, je vous avoue, je suis toujours vachement dubitatif sur la partie méca. Ça a l'air vachement lent,
ouais.
Mais en même temps, c'est comme je l'ai dit, pour contrebalancer le fait que si t'es un soldat, si le méca est vachement rapide, tu vas te faire défoncer en deux secondes, quoi. Alors, ce qui me gêne, si tu veux, c'est que à la limite que ce soit lent, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a aucune option de customisation, en fait. Ça sera vraiment des mechas comme ça, ex nihilo, et tu pourras rien modifier dessus, en fait. Et c'est quand même dommage d'avoir quitte à avoir un gameplay lent, si tu veux, je me dis, autant avoir des possibilités de customisation qui feront que ton mecha se jouera pas pareil en fonction de la manière dont tu l'as customisé, etc., quoi, enfin... parce que là, pour le moment, je reste quand même un poil dubitatif sur les mechas, même si effectivement, c'est très sympa d'avoir un mecha qui te suit comme ça en permanence, qui va se battre avec les autres pendant que tu te balades. Et même, je veux dire, je me rappelle le trailer, le passage où le mec saute d'un immeuble pour atterrir dans son mecha, c'est quand même vachement la classe, quoi. Faut avouer. C'est quand même, ça pète la classe, quoi. Donc bon, un jeu qui pour le coup nous a beaucoup plus convaincu lors de sa présentation E3. Qu'on va quand même suivre avec un certain intérêt, n'est-ce pas? Command & Conquer cette fois. Alors là, pour le coup, il y a eu une bonne nouvelle. Je veux dire, quand on est fan de Command & Conquer, on y joue pour les jeux solo en général. Hein. Je veux dire, oui, le multi des Command & Conquer, hein, c'est pas StarCraft, c'est pas les Supreme Commander, c'est vraiment pour le solo et sa partie solo complètement totalement déjantée, quoi. J'ai envie de dire. Même s'ils ont essayé de changer ça, il n'en reste pas moins que l'ADN des Command & Conquer, c'est le solo. Et là, je crois qu'ils ont justement annoncé que finalement, le prochain opus qui est free-to-play, je crois,
oui,
aura une campagne solo. Alors par contre, là, moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est free-to-play, solo. Là, ça me laisse dubitatif, tu veux.
Oui, moi, j'imagine directement des microtransactions pour avoir accès à la campagne solo, mais ça n'a pas été confirmé. En tout cas, ce qui a été confirmé, c'est qu'il y aurait un mode campagne épisodique. Alors en plus, free to play, solo et épisodique, c'est vrai que ça fait ça sonne très payant d'un coup là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la campagne solo va être découpée en fait en différentes factions et chaque faction aura le droit à un épisode. Donc ça commencera donc en 2014. Pour le moment en fait, Command & Conquer Free to Play va lancer sa phase de bêta ouverte là incessamment sous peu, va certainement être lancé fin 2013 en version terminée et à partir de 2014 en fait on pourra se lancer dans la campagne solo de Command & Conquer. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle sans être totalement la bonne nouvelle qu'on attendait parce qu'on ne sait pas exactement si ça va être payant ou pas. Bon, on imagine qu'avec un modèle free-to-play, sachant qu'on ne sait pas encore ce qui va être monétisé dans le jeu, on imagine que cette partie-là va être payante.
Non, c'est quand même, tu crois.
C'est quand même Electronic Arts derrière, faut arrêter de déconner. Donc voilà. Bon, par contre, petit bémol sur la conférence Electronic Arts, c'est bien de faire style qu'on organise un match avec des commentateurs qui gueulent, mais c'est bien aussi de faire vraiment jouer les joueurs parce que là c'était un match qui était arrangé quoi. Enfin c'était déjà filmé et ça se voyait quoi. le mec à gauche il bougeait même pas sa souris. Enfin je veux dire voilà. Arrêtez de. Enfin bon si vous achetez des acteurs voilà faites en sorte que ils bougent leur souris quoi. Enfin c'est la moindre des choses.
Et en fait le multi de ce que t'en as vu ça t'a convaincu toi qui joues pas mal à StarCraft 2 ou
bon.
Pour le moment.
Voilà, c'est comme tu l'as dit, Command & Conquer en multi, c'est pas forcément l'expérience la plus passionnante, mais bon, ça reste quelque chose de free to play, donc pourquoi pas tester au moment où ça sortira, on vous en dira des nouvelles.
Bon, on va terminer ce podcast avec Ubisoft, qui a montré finalement la liste des jeux qu'ils avaient présenté à l'E3, mais je crois que tu voulais revenir en particulier sur un titre qu'on avait pas mal bâché à l'E3, qui finalement, toi, te plaît beaucoup, et finalement, tu vas rejoindre les rangs de Mikael qui avait été séduit durant la conférence E3, c'est The Crew. Alors, Morel, va falloir que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a convaincu finalement, ça avait l'air pas mal, parce que moi, je t'avoue que pour le moment...
Ouais, je me rappelle, enfin, heureusement que Mamie n'est pas là, parce que sinon, il me taperait dessus, mais bon, peu importe. Donc The Crew, j'étais pas forcément très très enthousiaste encore une fois à l'E3. J'ai l'impression à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'être blasé, mais bon, peu importe. En fait, The Crew c'est donc le jeu de course d'Ubisoft qui sortira début 2014 sur PS4 et Xbox One. L'idée c'est d'avoir un monde ouvert un peu à l'époque de enfin un peu comme ce qu'ils faisaient à l'époque de Burnout Paradise et ce qui a été généralisé maintenant avec la série de Need for Speed mais qui est aussi ouvert au online et en fait quand j'ai vu le gameplay qu'ils ont présenté à la Gamescom je me suis dit ça peut être intéressant parce que il y a des épreuves qui sont spécifiques à The Crew. Ils en ont montré une, par exemple, donc vous êtes à deux sur un chemin de campagne, un peu comme une... Ouais, c'est un peu comme une course de rallye, en fait, et l'idée, c'est, pour vous départager, c'est pas le premier arrivé à la ligne d'arrivée, c'est de rester le plus possible sur une ligne qui est au centre de la piste. Et à chaque fois que vous en sortez, vous perdez des points, et quand vous y restez, plus vous y restez, en fait, plus vous gagnez des points. Et évidemment, voilà, c'est à la fin de la course, celui qui a le plus de points l'emporte, et c'est des points qui vont ensuite être utilisés pour acheter de nouvelles bagnoles, évidemment, de nouvelles pièces détachées. Et moi, ce qui m'a impressionné, en fait, c'est le menu de sélection de véhicules. Je sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient, enfin, à l'époque à l'E3, ils avaient montré le fait que les véhicules pouvaient complètement être détachés. Enfin, tu pouvais voir toutes les pièces détachées du véhicule.
Ouais, et d'ailleurs avec une cinématique en CGI qui
oui.
détonnait complètement du jeu en lui-même.
Et cette fois, en fait, ils l'ont montré mais in-game. Mm. Et en fait, ça sert vraiment. C'est pas juste un gadget visuel. C'est-à-dire que, en fonction des courses que tu vas faire, tu peux choisir telle ou telle pièce détachée qui va te servir ou non. Par exemple, là, sur la mission de Race Campagne, le mieux, c'est d'avoir un système de freinage qui est plus performant. Et, bien évidemment, si vous choisissez autre chose, vous aurez peut-être plus de mal. Donc là, pour le coup, alors, au-delà de l'aspect graphique et technique de ce menu de sélection de véhicules, on a quelque chose qui peut servir le gameplay. Donc c'est pour ça que je suis un tout petit peu plus enthousiaste par rapport à The Crew. C'est que j'entrevois peut-être quelque chose d'intéressant. Après, bon, je suis encore très bien sur Burnout Paradise, pour être tout à fait honnête, mais on verra ce que ça donne en jeu au printemps 2014. Voilà.
En espérant qu'on sache enfin à quoi sert le fait que ce soit un truc persistant. J'ai toujours pas compris personnellement.
Oui. Alors moi j'ai bien aimé le fait que quand t'as un ami qui est en ligne dans ton monde, en fait tu peux aller directement le rejoindre avec un voyage rapide pour lancer directement une partie. Ça c'est plutôt cool. Parce que bon, c'est bien d'avoir un mode multijoueur persistant sur un jeu de course, mais si tu peux jamais faire des courses avec tes potes, c'est tout de suite ça perd un peu d'intérêt.
C'est sûr. On a appris une bonne nouvelle aussi, c'est que finalement The Division arrivera sur PC.
Oui.
Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Très très bonne nouvelle. D'ailleurs, Titanfall, qui est un titre PC également.
Donc voilà, ça m'évitera d'avoir acheté une Xbox. C'est super.
Pas mal de gros titres finalement de la nouvelle génération seront disponibles sur PC, ce qui peut voilà permettre aussi d'attendre avant d'investir dans une nouvelle console.
Exactement. Donc voilà, on va s'arrêter pour cette semaine. Hein.
Ouais.
Ce fut long, n'est-ce pas ? Nous allons nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, messieurs dames. Bye bye.
Salut.